18 mars. À votre magazine radio In Situ, hein, on fait place à la 38e édition du Festival international du film sur l'art qui diffuse spécialement une programmation en ligne en période de crise. Et on s'en tiendra à ce sujet avec Jacinthe Brisebois, directrice de la programmation du film d'art et ex-directrice à RTV. Et en deuxième partie, ben, il y aura une entrevue avec l'artiste humaniste émergent Alex Coma, qui expose dans deux galeries actuellement, deux jeunes galeries. Alors, très bonne émission à l'antenne de Radio Centre-Ville 102,3. Alors, heureuse hein, que vous soyez à l'écoute en période de crise actuelle, celle du corona et de la COVID-19. Alors, tout notre soutien moral pour traverser ensemble cette dure épreuve. Alors, bon mercredi, hein, très bienvenue à votre magazine radio In Situ qui va à la rencontre et donne la parole chaque semaine aux meilleurs visuels, toutes tendances ainsi qu'aux disciplines connexes. Alors, une émission diffusée à Radio Centre-Ville avec un complément appréciable sur le web via une page Facebook et un blog sur WordPress Magazine In Situ. Alors, je m'appelle Chantal Heureux, j'anime et je réalise chaque semaine ce rendez-vous radiophonique hebdomadaire intense soutenu par deux indispensables techniciens. Hein. Alors, Ronnie à la mise en onde, merci beaucoup Ronnie. Et aux nombreux montages, eh bien, il y a Georges Sabat. Ronnie D, pardonnez-moi, je n'ai pas mentionné son nom de famille. Alors, voilà, c'est une période de crise, mais c'est aussi l'occasion d'apprécier la vie au quotidien plus que jamais. Et un de ces moyens, hein, c'est de profiter des programmations spéciales. Alors, après avoir été informé de l'annulation du Festival international du film sur l'art, eh bien, la déception, hein, parce que c'est un festival fort attendu chaque année, la déception a fait place à la joie d'apprendre que la présentation de tant attendue de la 38e édition du FIFA, ben, se fera en ligne. Et le festival présentait d'ailleurs hier soir son film d'ouverture à 19h. Alors, le FIFA, c'est plus de 240 titres en provenance de 40 pays. Et pour nous en dire plus, ben, j'aurai le plaisir, dans quelques instants, d'échanger avec Madame Jacinthe Brisebois, que je joindrai par téléphone en cette période de coronavirus et de distanciation sociale. Hein. C'est ce qui nous est demandé. Mais tout d'abord, voilà un petit pont musical pour nous donner l'envie de découvrir le film sur Barbara Hannigan et qui fait partie de la programme des films du FIFA. Alors, voici ce petit pont musical. Alors, bienvenue, Madame Jacinthe Brisebois, hein, directrice de la programmation du film d'art. Heureuse de vous retrouver à nouveau en 2020, mais dans des circonstances totalement différentes de celles de 2019. Hein? On vit une période difficile. Bienvenue, Madame Jacinthe Brisebois.
Bonjour.
Oui. Alors, Madame Brisebois, je suis très contente de pouvoir m'entretenir avec vous. Comment s'est déroulée cette reconversion du FIFA qui nous permettra de profiter, de bénéficier d'une diffusion en ligne plutôt qu'en salle? Comment ça s'est passé?
Ben, ça a été une course, je dirais. Oui. Je pense que c'est parce qu'on a une équipe absolument extraordinaire et complètement dévouée. Arrivé. parce qu'on a eu cette idée-là finalement vendredi, quand on a su que bon, le festival est annulé la veille et tout ça. On a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bénéficier le public des mois de travail qu'on a mis pour organiser ce festival-là. Donc, on s'est mis à la tâche et puis la première chose à faire, ben, c'était évidemment de contacter tous les soumissionnaires des films qui avaient été acceptés afin qu'ils acceptent de transformer la présentation en salle en présentation web.
Alors, quelle bonne idée. Et j'imagine que ça a été toute c'était une épopée que d'arriver à tout faire en quelques jours.
Tout à fait. Mais on est très, très contents parce que ça a ouvert hier soir avec la présentation du film qui devait d'ailleurs être en ouverture hier soir.
Oui.
Et ça se passe très bien. Vraiment, on est très contents.
Est-ce que le public, donc, est au rendez-vous, était au rendez-vous dès hier soir?
Oui, dès hier soir. On n'a pas, je dirais qu'au moment où on se parle, les derniers chiffres de vente, on est rendu à 1200 personnes qui se sont abonnés pour le festival en ligne.
Est-ce que les personnes qui se sont abonnées auront accès à une programmation complète ou partielle, une sélection de films ou pas?
En fait, il y a des films qui n'ont pas accepté d'être diffusés sur la plateforme web.
Ben oui.
Parce que soit ils n'avaient pas les droits, soit que c'est vraiment une question de droit. Donc, ce matin, il y avait une vingtaine de films qui avaient refusé. Il y a encore quelques films qui n'ont pas répondu, mais je vous dirais que la majorité des films ont accepté. Pour l'instant, je pense qu'on n'est pas loin de 150 films.
Mais quelle bonne idée, parce que les gens vont pouvoir en bénéficier plus que jamais de cette programmation spéciale en ligne dans les circonstances actuelles. Quelle bonne idée. Alors, ça fera aussi découvrir toute la richesse du Festival international du film sur l'art, n'est-ce pas?
Ben, je pense que oui.
Oui.
Puis, il y a des femmes qui sont là depuis des années en salle et tout ça, mais c'est aussi peut-être l'occasion pour de nouvelles personnes de faire cette découverte-là, parce que finalement, beaucoup sont confinés chez eux et tout ça. Et je pense que c'est une alternative qui est très intéressante et qui pourrait intéresser des gens qui, habituellement, n'auraient pas pensé à ça. Parce que, il faut le dire, là, quand même, près de 150 films pour 30$ pour 10 jours.
C'était ma question.
Et comme les gens sont beaucoup confinés chez eux, ben, je pense que ça peut être vraiment une bonne alternative. L'autre chose aussi, c'est que le festival, les films qu'on présente au Festival des films sur l'art, puis moi, c'est ce qui m'a toujours attirée dans ce festival-là, c'est que souvent, ce sont des films très inspirants qui présentent des cas de résilience, de gens qui s'en ont sorti grâce à l'art, grâce parfois dans des situations difficiles. Alors, ça nous change beaucoup de entendre maintenant dans les nouvelles
qui
sont importantes, qu'on demeure informé, mais on a besoin aussi d'avoir autre chose, d'avoir pour être alimenté positivement, puis pour être résilient face aux difficultés qu'on vit présentement.
Oui, c'est ça. Alors, oui, quel bien-être que peut procurer cette évasion par l'art, tout à fait. Alors, c'est bien généreux de la part du FIFA d'offrir toute la programmation entière pour à peine 30$. C'est bien ce que j'ai compris?
Oui, c'est ça. Il s'ajoute des frais de billetterie de 2,50$, je pense. Mais je pense qu'on a essayé aussi d'avoir un prix bon qui permettait aussi à toute l'équipe qui n'est pas engagée à l'année de terminer, de pouvoir les garder jusqu'à la fin du festival. Et ça permet ça. Et d'être accessible pour que d'autres personnes puissent avoir un intérêt pour le festival et découvrir quelque chose de nouveau.
Tout à fait. Et en même temps, c'est une forme de soutien à la population qui vit une période difficile, hein, j'en suis persuadée.
Oui, c'est sûr. Puis il y a vraiment un choix de films très différent. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le Festival des films sur l'art présente...
Oui, allez-y, décrivez-nous les différentes catégories et les nouveautés cette année, en général, mais...
Alors, ouais. Présente des documentaires, mais dans plusieurs disciplines, juste pour, au début, faire un petit... présentation de ça, ben on a des films en musique, en danse, en peinture, en gastronomie, en littérature, en cinéma, en architecture. On a des films sur la créativité. Et une des marques de cette année qu'il y avait pour le Festival en salle, c'était des films sur l'art inclusif ou l'art thérapie. On a eu plusieurs films de ce type-là. Je ne sais pas si c'est dû justement au temps qui court, quoique le coronavirus n'était pas encore en place quand on a commencé à recevoir nos films. Mais il y avait plusieurs films qui ont une dimension qui rejoint ça. Comme le film d'ouverture d'ailleurs, qui est un très très beau film, We Are Not Princesses, qui raconte l'histoire de jeunes femmes réfugiées au Liban qui apprennent une pièce de théâtre et qui, à travers cette pièce-là, retrouvent une certaine joie de vivre et une résilience dans les moments difficiles auxquels ils font face. Donc, on en a un autre qui a été fait par une jeune réalisatrice ici qui s'appelle Traces of Hope, qui est aussi dans un camp de réfugiés, avec des jeunes enfants qui font des dessins d'animation pour créer un court film d'animation. Et on voit toute la joie que ces enfants-là ont à faire cet atelier-là. C'est vraiment surprenant et très réjouissant de voir ça. Alors, on a ce type de choses-là. On en a en danse aussi. On a un autre film de cette nature-là qui s'appelle Sip 20B, qui est l'histoire d'une sculpteur américaine dont le fils est décédé dans un accident d'avion terroriste il y a quelques années. Et moi, quand j'avais vu ça, je me disais, ah, tiens, il y a eu un accident d'avion il n'y a pas si longtemps. Et cette femme-là, pour surmonter sa douleur, a créé une immense sculpture avec toutes les mères des enfants qui avait été tué dans cet accident.
C'est quelque chose.
Donc, c'est un très beau film. Donc, ça, on a plusieurs films de cette catégorie-là.
Oui.
On a des films aussi qui ont été faits par des réalisateurs ou réalisatrices d'ici. On a un film sur Mouf.
Oui.
On a un film sur René Derouin, qui est un artiste important canadien qui vit entre le Mexique et Montréal.
Très apprécié par le public, oui. René Derouin.
C'est ça. Donc, c'est intéressant de le voir dans ces deux univers-là. On a un film sur Raoul Duguay, où le réalisateur l'a suivi pendant un an. Je vais vous dire qu'à 80 ans, je ne suis pas certaine que je pourrais être aussi... active que lui dans tout l'ensemble de ses activités qu'il fait avec des jeunes, des personnes de tout âge et tout ça. C'est vraiment un documentaire très enrichissant, très joyeux également sur Raoul Duguay. On a aussi en musique un film sur Albin de la Timothe.
Oui. Oui, on poursuit. Oui, alors on va reconnecter. On a une petite interruption et dans quelques instants, nous allons reprendre notre entretien avec Madame Jacinthe Brisebois à la direction du film d'art du Festival international du film sur l'art. Alors, je crois qu'on est en mesure de poursuivre avec Madame Jacinthe Brisebois. Madame Jacinthe Brisebois? Oui. Madame Jacinthe Brisebois? Oui. Oui, Madame Jacinthe Brisebois. OK, alors écoutez, on attend le temps qu'on joigne Madame Brisebois. Alors, dans quelques instants, on va lui demander à Madame Jacinthe Brisebois de nous conseiller peut-être quelques films en art visuel spécifiquement parce que il y a beaucoup beaucoup de films et je pense que pour avoir vu que y a, bon, madame, je pense que là je peux rejoindre à nouveau madame Jacinthe Brisebois. Madame, oui?
Oui.
On s'excuse de petite interruption. Madame Brisebois, vous nous avez présenté des films, je pense, qui vont être très courus, des films de vedettes, là. Peut-être qu'on pourrait profiter de cette petite interruption pour vous amener à parler du volet art visuel qui est d'importance. Écoutez, dans plusieurs disciplines.
Oui, on a plusieurs films. Bon, ben, c'est, vous savez, pour les gens qui ne connaissaient pas le festival, on est quand même à la 38e édition de ce festival. Et le festival a commencé beaucoup, beaucoup axé sur les arts visuels. Alors, il y a deux films sur Léonard de Vinci, dont c'était l'anniversaire l'an dernier. Et je dois dire que souvent, ces films-là sont très accessibles. Hein. On pense que les gens se disent « ben moi, je peux pas regarder ça, je connais pas ça » et tout ça, mais c'est pas du tout le cas. Souvent, les films sont racontés d'une façon où si on s'intéresse à l'artiste, ça va être facile. On a un film qui s'appelle « Aïda moderne » sur le Robert Davidson, qui est un artiste de Vancouver, qui a, grâce à ses totems, complètement revigoré la culture Aïda. Donc, c'est très intéressant de voir toute la démarche qu'il a faite pendant toutes ces années-là. Un film sur Mary Pratt, sur Richard Est.
Ernest Cormier, écoutez, en architecture, vous avez tout un volet architecture, hein, d'importance.
Architecture aussi, avec un film sur Ernest Cormier.
Écoute, je suis impatiente.
Un film qui s'appelle aussi Architecture of Infinity, sur des endroits sacrés. Donc, on fait un peu un tour du monde en présentant des endroits sacrés. Un film qui s'appelle The New Bauhaus, sur le mouvement Bauhaus en architecture. On a aussi un film sur qui s'appelle Art on Fire, sur l'événement annuel aux États-Unis qui s'appelle Burning Man, qui se passe dans le Nevada et qui dont autour de 80 000 personnes vont là à chaque année. Donc, c'est une occasion unique de voir qu'est-ce qui se passe dans cet événement-là. Il y a plus de 400 artistes qui exposent des œuvres d'art. Donc, c'est une occasion unique d'avoir accès à l'intérieur de ça quand on n'a pas la chance d'aller là.
Et d'autant
moi,
plus que
beaucoup plus.
D'autant plus que cette année, ce sera à cause de la crise, ce sera sûrement un événement annulé.
Possiblement, parce que ça a lieu en septembre, donc non, c'est vraiment très, très spécial. En art visuel, on a aussi un film sur Tintoretto, qui a vécu à Venise, donc c'est un très beau film. Si on veut être dépaysé, on est à Venise. Si on veut encore être dépaysé, on a un film sur la peinture japonaise qui s'appelle Edo Avant-Garde. Donc là, on est aussi dans un autre univers. Et pour rester dans un peu l'élément de voyage en musique, on a un portrait de Eliades Ochoa qui faisait partie du Buena Vista Club. Alors, on se promène avec lui à Cuba, dans son village natal, avec ses musiciens. Il fait très beau. Et puis, on entend la musique traditionnelle cubaine. Alors, c'est un très beau film qui nous réchauffe le cœur.
Absolument. Écoutez, je suis impatiente de le voir. Et vous avez aussi, Madame Brisebois, des portraits d'artistes. Hein. C'est une catégorie très intéressante, que ce soit des portraits d'artistes. Là, écoute, on en a plusieurs ici. Marcel Duchamp, écoutez, un incontournable pour les passionnés d'art contemporain.
Pour les passionnés d'art contemporain ou de d'autres aussi disciplines. En art contemporain, on a un portrait qui s'appelle, en fait, Marcel Duchamp, Art of Possible, qui est très, très bien, qui démontre à quel point cet artiste-là, qui était au début du siècle, influence encore les artistes du 21e siècle. On a aussi
Richard
Est.
Oui.
On a un portrait de Niki de Saint-Phalle.
Oh mon Dieu, oui.
Un portrait de Mary Pratt aussi, qui est une qui est une artiste peintre canadienne qui a toujours peint, c'était la femme de Christopher Pratt, et elle a toujours peint des choses très hyper réalistes dans sa cuisine, parce qu'elle avait 4 enfants, elle ne pouvait pas sortir, mais maintenant elle est exposée dans plusieurs musées à travers le monde.
Et Madame Brisebois, écoutez, il y a vraiment un film sur la femme, une femme d'exception. Écoutez, une artiste qui est très admirée. Alors, c'est Marina Abramović, hein, qui aura aussi une présentation.
Le film ne sera pas présenté parce que ça fait partie des films qui n'ont pas donné leur autorisation.
Bon, d'accord. Alors, c'est bon, c'est bien de le préciser. Mais le marché de l'art fera aussi partie de la programmation du FIFA. Et ça, c'est d'importance.
Oui. En fait, on a deux films qui racontent des histoires liées à ça. Le premier, c'est l'affaire Caravage. Alors, il y a 2 ans, il y a une toile de Caravage qui a été retrouvée dans un grenier dans le sud de la France, et c'est un galeriste de la région de Lyon, je pense, qui a été appelé pour aller chercher cette œuvre-là. Et là, il a procédé à toutes sortes de choses pour authentifier cette œuvre-là. Et on suit toute la trajectoire de cette œuvre nouvelle-là qui a été découverte, et comment une œuvre nouvelle mais ancienne est traitée à travers le marché de l'art. Alors, c'est super intéressant pour ceux qui s'intéressent un peu au marché de l'art, là. C'est vraiment une découverte, et il faut dire que les protagonistes qui sont là-dedans sont des très bons communicateurs. Alors, il y a un côté même amusant à ça. Et il y a également un film de ce type-là avec sur Léonard de Vinci aussi. Donc, ils ont découvert un nouveau tableau.
Oui.
Un tableau qui, en fait, c'est un tableau qui serait comme une copie d'un autre tableau. Mais on découvre que finalement, ce n'est peut-être pas tant une copie que ça. Je n'irai pas plus loin, parce que ça s'appelle Léonard de Vinci, le chef-d'œuvre redécouvert.
Oui.
Et on voit à quel point c'est extrêmement complexe d'authentifier une nouvelle œuvre, et que ça demande des recherches autant d'un côté scientifique que d'un côté historique.
Alors, Madame Jacinthe Brisebois, merci beaucoup de nous avoir présenté ce volet art visuel. Écoutez, c'est d'intérêt, ça pique la curiosité au plus haut point. Merci beaucoup. Peut-être une toute dernière question, Madame Jacinthe Brisebois. Est-ce que la remise des prix aura lieu dans les circonstances? Vous savez que le FIFA se termine par une séance de remise de prix.
Ben, en fait, il y aura une remise de prix.
Oui.
On est à les jurys avaient reçu les films, donc ils ont vu les films. On est en train d'organiser une délibération par vidéoconférence, et il y aura des prix qui seront remis. La journée n'est pas encore déterminée, mais dans le courant de la semaine prochaine. Donc, voilà.
Mais alors, écoutez, oui, Madame Jacinthe Brisebois, merci à la direction de la programmation du film d'art. Merci de nous avoir présenté le Festival international du film sur l'art qui débutait hier. Et ce film d'hier soir, le public va pouvoir le revoir.
Pendant tous les films qui sont présentement là, et ça s'ajoute au fur et à mesure, sont disponibles jusqu'au 29 mars.
Alors, je vous souhaite...
Pour accéder au Festival des films sur l'art, billetterie, et vous pouvez acheter votre passeport directement là.
Merci de ces informations précises. Je vous souhaite une excellente journée et surtout un très bon Festival international du film sur l'art. Encore merci.
Merci à vous.
Et on passe en musique du film dont a parlé Mme Jacinthe Brisebois. Alors, c'est la musique Chan Chan d'Eliades Ochoa.
lucha en el mar suerte y en arena. Como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena.
Maintenant, un mot de nos partenaires. Georges Lawin Opticien soutient le milieu des arts visuels en présentant des expositions en boutique. Jusqu'au 27 mars, l'artiste peintre et écrivaine Marc Thieriot nous convie au 42 rue Saint-Denis. Quant à l'artiste et architecte Peggy Ann Turner, c'est plutôt au 1396 rue Sherbrooke-Ouest qu'elle nous attend. Georges Lawin Opticien, un nouveau regard sur les arts visuels.
Située au 6394 boulevard Saint-Laurent, au sud de la rue Beauvien, la galerie de location Erga offre aux artistes et conservateurs un espace d'exposition de qualité, grand et bien éclairé. À la limite nord de la Petite Italie, un quartier en pleine effervescence culturelle, cet espace de location est le lieu idéal pour organiser vos prochaines expositions d'art. Vous bénéficierez des conseils de M. Demetrios, le galeriste artiste qui a installé son atelier. Pour information, téléphone 514-886-8827, courriel galerieerga@commercialgmail.com.
Spécialiste de la fabrication à la main de faux cadres sur mesure, Support Surface vous accompagne dans vos projets artistiques en vous offrant une vaste gamme d'articles allant des toiles montées et panneaux de bois jusqu'à la peinture, produits d'emballage, accessoires pour l'accrochage et boîtes de transport construites selon spécifications. Pour plus d'informations, visitez supportsurface.ca ou composez le 514-521-2278. Ouvert du lundi au vendredi au 5425 rue de Bordeaux, local 106. Support Surface, fait pour et par des artistes depuis 1998.
Vous écoutez le magazine radio In Situ sur Radio Centre-Ville 102,3 FM à Montréal.
vibratoire thérapeutique, hein, chakra plexus solaire de Michel Landin, pour nous préparer à une entrevue avec l'artiste humaniste émergent Alex Comand, qui bénéficie d'une période de haute visibilité depuis plusieurs mois. Alors, après avoir exposé au Livard, à la Galerie AV, dans aussi le cadre d'une exposition collective Arch, créée spécialement pour la relève, après avoir aussi exposé dans le lieu de diffusion Ubisoft, à la Galerie Stuart Hall, et c'était alors une exposition titrée, une exposition collective titrée Trousse mystique, eh bien, on peut apprécier de nouveau ses œuvres à la Galerie Archive Art Contemporain dans Pointe-Saint-Charles jusqu'au 31 mars, une jeune galerie et une toute nouvelle galerie, la galerie Jeannot Lapin, et oui, quel nom, hein, dans le centre-ville. Eh bien, cette rencontre avec Alex Comand tombe à point en cette période trouble, car cet artiste s'intéresse à des dimensions qui nous englobent, qui peuvent donner un sens à la vie humaine. Alors voilà, une entrevue réalisée à son domicile lundi passé avec cet artiste qui est photographe, peintre et qui projette de plus en plus d'être créé des œuvres de médium mix sous forme d'installations assez ambitieuses. Hein. Alors voici, j'ai lui posé comme première question quelles étaient ses sources d'inspiration qui imprègnent son œuvre résolument tournée vers des dimensions de l'ordre de la sphère spirituelle. Alors voici sa réponse.
Ça a commencé de façon plutôt inconsciente, où est-ce que mes œuvres se créaient, puis ensuite je les analysais, alors que maintenant mon travail a comme tourné de côté, où est-ce que l'inspiration me vient et consciemment je crée des œuvres qui sont plus profondes. Donc beaucoup plus de méditation, beaucoup plus de réflexion, d'intuition sont nécessaires pour les nouvelles, mon nouveau travail, en fait.
Si on se parle un peu plus de votre réflexion, par exemple, j'ai lu sur vous que l'impact cosmique vous préoccupe particulièrement. Alors, pouvez-vous nous en glisser mot?
Ben, l'impact cosmique, pour moi, c'est surtout, je dirais que c'est pas tout à fait ça, c'est surtout, moi je vois notre inconscient un peu comme le cosmos, c'est-à-dire une zone infinie où est-ce que il y a tout, pour la majorité, c'est, il y a personne qui est jamais allé, donc ça reste à découvrir. Donc, pour moi, le travail cosmique est un reflet du travail interne qu'on doit faire pour se découvrir et se connaître mieux. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mes œuvres qui sont situées dans un environnement étoilé, avec des ciels étoilés, puis très cosmique. Mais en fait, c'est un reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Donc, comme le terme hermétique, inner, outer world, ou as above, so below. Donc, ce qui se passe en haut de nous, c'est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous.
Oui, c'est très intéressant. Donc, vous trouvez qu'on fait partie d'une dynamique qui opère tant à l'interne qu'à l'externe, hein? On a en nous des éléments clés pour comprendre, puis se questionner, puis trouver des réponses à notre existence humaine.
Ouais, exactement. Donc, ouais. Si on observe notre corps, nos pensées, tous les mécanismes de notre esprit, comment qu'il fonctionne, comment qu'il opère en lien avec son environnement, c'est les mêmes mécanismes si on observe les planètes avec le magnétisme qui fait en sorte que la Terre tourne autour du Soleil, par exemple. C'est les mêmes mécanismes que nos atomes. Tout est interrelié, interconnecté. Il suffit juste de prendre le temps de le voir puis de le comprendre.
Alors, de là, votre démarche, justement, d'exposer cette interconnexion qui vous préoccupe particulièrement. Et ce que je trouve intéressant, c'est votre cette autre source d'inspiration sur l'inconscient collectif, hein. C'est quelque chose qui oriente votre démarche.
Ben, en fait, moi, ma démarche a débuté par une introspection qui est plus personnel, c'est-à-dire plus près de l'ego, parce que l'ego, c'est en fait ce qui nous lie à notre centre et qui nous empêche de connecter avec les autres. Donc, ça a commencé par un travail de purification de l'ego pour lui enlever la force qu'il a de nous garder
isolés.
Et
non connectés.
Exactement. Ouais, donc, plus qu'on l'isole puis qu'on le comprend, plus qu'on comprend que c'était un mécanisme de réflexion comme un miroir. Mais c'est pas plus que ça, c'est un mécanisme de survie. Et une fois qu'on peut s'en défaire, ben là on peut connecter avec cet inconscient collectif là et voir plus clair comment que nous sommes tous connectés par ce vide, si on veut, cet espace négatif qui relie tout, pas juste les humains, mais toutes les atomes du monde, de l'univers.
Oui, alors vous voyez vraiment l'humain comme intégré dans une dynamique à l'échelle non seulement planétaire, cosmique. Vous voyez vraiment, et ça transparaît donc dans vos œuvres. Est-ce que c'est inscrit de vous demander de quelle façon vous en êtes arrivé à purifier votre ego pour le rendre plus solidaire qu'individualiste?
Ben en fait, c'est beaucoup d'introspection. Moi, pour ma part, il y a plusieurs techniques. J'utilise certains travails de rituels qui sont en fait une genre de danse qu'on fait avec notre inconscient ou notre psyché. Puis je vois ça comme les mathématiques de la psyché. Donc une façon de...
Ah, oh, c'est intéressant comme concept.
Une façon de dénouer certaines parties de nous-mêmes qui nous obligent à voir une réalité d'une certaine façon. Avec ces techniques-là, on est capable de voir au travers ces patterns-là qu'on a créés nous-mêmes, ou que la société nous a imposés, ou que modèle parental, ou tout ce qui nous fait que notre ego s'identifie avec certaines caractéristiques. Ça nous permet de voir au travers de ça, puis de voir ce qui est en fait universel et qui lie tous les humains ensemble. Et donc, ce travail-là a débuté comme ça.
C'est une démarche avant tout individuelle que vous avez accomplie?
Ben au début oui, puis de plus en plus, là je peux m'adresser des problèmes qui sont plus grands que l'ego une fois que j'ai pu. Je dis pas que mon ego est disparu, mais c'est un travail que je poursuis activement dans le but justement de pouvoir parler de sujets qui sont plus universels, parce que l'ego touche tout le monde, mais je crois que mon travail en tant qu'artiste, c'est encore plus que, oui, de montrer cet exemple-là qu'on peut tous faire, mais aussi d'emmener des messages qui sont encore plus importants en ces temps de crise ou de panique générale.
Absolument, c'est le cas actuellement. Et il y a beaucoup de déroutes, notamment dans le milieu culturel. Donc, vous avez surtout, est-ce que ça serait à nouveau indiscret de vous demander que cette réflexion, vous l'avez faite peut-être dans le cadre d'une démarche de méditation personnelle?
Moi, je dirais que ma...
Ou en groupe?
Moi, je dirais que ma démarche a été assez organique. Je me sens un peu comme si j'avais été attiré dans cette direction-là. Et de le fait de faire confiance à cette attirance-là, fait en sorte que les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes autour de moi, au lieu de refuser des voix ou de les résister, j'ai juste embarqué dans ce courant-là, et donc ça m'a emmené à rencontrer les bonnes personnes qui m'ont montré différentes techniques, puis de mon arrivée dans le milieu des arts à l'université, c'était vraiment même pas voulu que je rentre dans un programme d'art. Donc tout ça fait.
Oh ouais, c'est vraiment étonnant. Vous vous êtes laissé aller à ce qui se présentait sur votre chemin. Vous avez suivi des signes sur votre chemin.
Oui, c'est exactement ça. Je crois qu'on a tous un chemin à vivre. Puis il y a certaines choses qui sont plus difficiles, mais c'est surtout quand on les résiste qui sont difficiles. Puis quand on laisse les choses aller, les choses se passent. Ou quand on est conscient, puis qu'on regarde les signes autour de nous, puis qu'au lieu de les voir comme des défaites, mais on s'en sert pour comprendre mieux notre chemin, puis se réorienter toujours vers le bon chemin. ben les choses se passent pour nous et non pas contre nous.
Ah, mais c'est très intéressant. Donc il y a une confiance, en tout cas vous avez certainement, et qui est apparente aussi dans vos œuvres. Cette démarche-là, j'imagine que vous avez dû aussi la transférer. Vous l'avez faite au niveau personnel. Vous avez dû la faire aussi au niveau artistique. Et je crois que vous avez été faire une résidence qui a été particulièrement marquante pour vous. Au Costa Rica, hein? Si vous me présentiez un petit peu cette démarche qui vous a, je pense, apporté beaucoup, hein, cette démarche au Costa Rica, ce n'est que de vous imprégner de la nature environnante.
Oui, c'est ça, surtout ouais. dans l'hiver qu'on vit au Québec ici, où est-ce que tout est un peu plus en stand-by, les plantes dorment et tout est au ralenti. Donc le fait de m'immerser dans cette jungle dynamique-là, dans cette résidence-là, où est-ce que tout est dynamique, puis tout bouge, tout part, tout communique, même plus que l'été ici, donc ça m'a permis vraiment de me connecter avec mon environnement encore plus, parce que dans un milieu où est-ce que qui est dominé par le béton, par l'asphalte dans les villes et tout, c'est on a moins de signes parce qu'il y a moins de trucs vivants autour de nous. Mais quand on est dans la jungle où est-ce que tout est vivant puis que ça a une abondance de faune et de flore, alors les signes sont constants. Donc ça permet un travail plus rapide en méditation ou même en méditation en état d'éveil.
Oh, ben c'est très intéressant. Donc, cette opulence, cette générosité de la nature vous a connecté davantage, vous a amené à approfondir votre réflexion. Et qu'est-ce que vous avez développé en particulier au niveau de vos œuvres? Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette résidence très spéciale à Costa Rica, en particulier au niveau artistique précisément?
Ben, en fait, ça a un peu conclu un chapitre de ma démarche, de ma vie artistique, où est-ce que j'ai commencé à faire plus de l'installation avec des plantes vivantes ou en train de se décomposer.
Qu'on a pu voir à la galerie sur Art, d'ailleurs.
Exactement. Ouais. Donc, okay. C'était comme un nouveau chapitre avant, où est-ce que j'utilisais les plantes comme des symboles, ou est-ce que je les peignais sur une toile, mais maintenant je me sers de ces mêmes plantes qui ont des propriétés qui sont très très importantes dans mon travail, mais je me sers directement de les plantes pour faire une installation immersive où est-ce que les gens peuvent embarquer dans l'installation ou dans l'œuvre d'art en soi, là.
Des plantes qui peuvent avoir toute une influence dans l'écosystème qui vous inspire tant.
Oui, mais c'est ça. Il y a beaucoup de symboles que j'ai retrouvés au travers des plantes au Costa Rica durant ma résidence, que j'ai même ramené après ça pour mon expo au Stuart Hall.
Et la série d'œuvres qu'on a vue à Ubisoft, est-ce que ce sont des paysages que vous avez réalisés au Costa Rica ou ailleurs auparavant?
Non, c'était... En fait, cette série-là, je l'ai faite entre 2016 et 2019. Donc, c'est une série qui m'a pris à peu près 2 ans et demi. Puis c'est la première grosse série qui avait le thème de la spiritualité ou du développement de la spiritualité. Donc, chaque toile, il y en a eu 7 au total, représentait un chapitre de mon développement spirituel ou de ma conscience qui s'éveillait, si on veut, ou que je prenais conscience de plus grandes choses autour de moi. Et donc, j'utilisais certains symboles, le tarot, les paysages comme une métaphore de, si on veut, de notre environnement, avec l'architecture comme une métaphore du corps humain ou de notre enveloppe corporelle. Donc, cette série-là, c'est une série architecturale et dans des paysages. Donc, c'est ça. Chacun est un reflet d'une partie de ma vie pendant 2 ans et demi.
Okay, alors, c'est très intéressant d'avoir... peint ces différentes étapes de votre parcours, de votre prise de conscience, de votre réveil spirituel. Si vous me présentiez peut-être une de ces œuvres-là, parce que elles sont très intéressantes et on peut en revoir une de ces œuvres présentement à l'Archive Art Contemporain. Peut-être nous décrire l'œuvre qu'on peut voir présentement à l'Archive Art Contemporain. Ça correspond à quelle étape et quelle signification cette œuvre avait pour vous?
Ben en fait, ça, c'est une œuvre qui est dans la même esthétique, mais qui a été faite plus tard, qui a été faite fin 2019.
Oh, donc, c'est après la série d'œuvres exposées là, à Ubisoft, mais dans...
C'est pour Arch, en fait.
Oui, mais oui, c'est pour Arch. Ben oui, voilà. J'ai vraiment, c'est toute une période de visibilité parce qu'en plus, il y a eu l'exposition extérieure Arch. Donc ça, c'est une étape de plus, plus actuelle dans votre développement spirituel.
C'est ça, cette série-là, en fait, elle parlait de ce lac mystique au Guatemala qui est en fait créé par un réservoir de magma qui a fait éruption dans un volcan. Il y a je sais pas combien de centaines d'années. Et donc, ça crée un gros trou qui s'est rempli d'eau. Et donc, ce lac-là a les propriétés d'être très énergétique du fait que c'était du magma actif avant. Mm-hmm. Et donc, tous les petits villages autour de ce grand lac-là au Guatemala ont des genres de mythes et des légendes qui parlent de comment actifs sont les rêves et comment c'est plus facile c'est d'avoir accès, d'être conscient au travers de nos rêves, de rencontrer des entités, ce lac-là est un peu met l'emphase sur l'inconscient. Donc pour moi, c'était une façon.
Qui peut meubler l'inconscient?
C'est une façon d'utiliser encore l'architecture comme le corps, mais le lien qu'on a, le corps avec l'inconscient au travers nos rêves. Et c'est une série que j'ai fait où est-ce que tout est bleu dans la série. Le temps de la journée est difficile à décrire. C'est entre le jour et la nuit. Ce temps-là où est-ce que tout devient bleu. Donc c'est encore une fois cette zone de transition-là entre le conscient et l'inconscient. C'est ce temps-là minime où est-ce qu'on a accès.
Qui vous inspire particulièrement.
Ouais, où est-ce qu'on a accès à quelque chose de plus profond. Ces genres de craques-là qu'on peut rentrer au travers pour.
Donc, vous aimez saisir ces moments qui nous connectent à des dimensions profondes en nous, mm-hmm. ces heures-là qui nous rendent disposés à la réflexion, à la méditation. Ah, c'est très intéressant. Et cette œuvre, donc, vous avez présenté plusieurs œuvres de votre développement spirituel à Ubisoft, mais celle-ci a été faite récemment. Mm-hmm. Est-ce que vous aviez fait un voyage pour cette œuvre-là?
Moi, la plupart de mes œuvres sont formées d'images que je prends quand je vais en voyage.
C'est intéressant. Et il y a des éléments clés qu'on retrouve dans vos œuvres. Lesquels, si vous en parliez? La nature, en tout cas, c'est un des éléments clés.
Ouais, dans mes plus récentes séries, il y a encore un lien avec le cosmos.
Le ciel étoilé, dont vous parliez, là?
Ouais, puis les astres, puis l'importance de l'astrologie dans mon travail aussi se fait voir. Différents symboles qui sont en lien avec les astres aussi, dont la lune qui représente l'inconscient. Donc, je dirais que c'est surtout ça, la nature, les astres. Tout là, en fait, le monde naturel.
Absolument. Et vous avez souvent la maison qui est au cœur de votre œuvre. Il y a une maison, si vous parliez de toute son importance.
Ben, la maison, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu le reflet du corps humain. Puis en fait, notre ego nous lie à ce corps humain-là, nous dit que c'est à nous, puis que cette barrière-là de peau qui l'entoure, ben c'est la limite entre nous et les autres. Et donc, je me sers de cette boîte-là qu'on construit pour nous abriter, qu'on appelle une maison ou de l'architecture, comme métaphore de notre propre enveloppe qui contient notre âme. Donc, notre âme vit au travers ce corps comme nous, on vit au travers cette maison-là. Donc, c'est comme une façon de jouer avec ça.
Oh, c'est très intéressant. Et bien sûr, il y a le ciel qui est omniprésent, mais l'eau aussi, dont vous parliez de l'eau qui est en connexion, j'imagine, avec tous les autres éléments naturels qu'on trouve dans vos œuvres.
Oui, c'est ça. Dans les sciences ésotériques, là, ils parlent des quatre éléments comme étant des façons de comprendre différentes parties de l'humain. Donc, l'eau, ça représente les émotions, l'inconscient aussi. Le feu, c'est la passion, c'est l'activité, c'est tout ce qui est en mouvement, qui est dynamique. La terre, c'est plus passif, c'est ce qui reçoit, c'est ce qui...
C'est le réceptacle.
Ouais, réceptacle, ce qui donne la vie. C'est lié avec tout ce qui est matériel, qu'est-ce qui est physique, tangible. Et en fait, ensuite, l'air, ça représente l'intellect, donc les pensées, qui sont une substance qui est invisible comme l'air, puis qui circule au travers tout.
Donc, des éléments naturels que vous souhaitez présents dans vos œuvres qui créent une synergie à la base même de la dynamique humaine. Et c'est très intéressant. C'est pour ça qu'on c'est vos œuvres procurent un bien-être, parce que ça fait appel à ces quatre éléments qui constituent la nature humaine. Alors on sent bien au contact de vos œuvres. Félicitations. Et on n'a pas parlé beaucoup du feu, mais il y a le feu qui est aussi présent dans vos œuvres. Hein. Il y a des chandelles sur le bord d'une fenêtre. Qu'est-ce que ça c'est le peut-être plus ambitieux un petit mot. Parce qu'elle se distingue des autres.
Dans cette œuvre-là particulièrement, c'est comme une fenêtre. Donc, dans cette toile-là, on est à l'intérieur du corps, à l'intérieur de l'architecture, et on regarde vers l'extérieur. Et ce qui est directement dans notre champ de vision, quand on regarde vers l'extérieur de la fenêtre, c'est une chandelle allumée. Donc, la chandelle allumée représente l'âme. Donc, l'âme qui filtre tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit, même comme si on n'en est pas conscient.
Et qui perce l'obscurité.
Aussi, exactement, ouais.
Mais c'est très intéressant. Écoutez, c'est intéressant de regarder vos œuvres, de les scruter. Il y a peut-être une autre œuvre dont je voudrais parler qui se démarque, c'est celle qu'on peut voir à la galerie Jeannot Lapin. Elle est différente.
Ouais, elle est différente. Ça fait partie d'une série qui est encore en processus, là. Elle n'est pas terminée. En fait, c'est la première œuvre de la série. Donc, c'est une série où est-ce que je vais rejouer des films que j'ai écoutés des centaines de fois étant jeune, comme Aladdin qu'on peut voir à cette galerie-là. Donc, je m'intéresse à ces films-là puisque je suis maintenant conscient que Walt Disney était un franc-maçon, donc il était initié dans ces symboles-là, dans cette science ésotérique-là. Et donc, dans ces films, il y a beaucoup de symboles. Puis je suis conscient maintenant du pouvoir que les symboles ont dans notre perception de la réalité. Et donc, le fait d'être immersé dans ces symboles-là, étant jeune, si jeune, ou est-ce que notre cerveau est une éponge, ça l'a sans doute formé notre identité d'une certaine façon, puis notre perception de la réalité. Donc, ce que je fais, c'est que je réécoute ces films-là, puis je regarde la scène qui me marque le plus, et je la réinterprète. Donc, je prends les symboles présents dans cette scène-là, puis je les enlève ou je les transforme pour remouler, si on veut, ma perception de la réalité d'une façon qui est plus près de qui je suis maintenant.
Je suis contente d'avoir des explications. Cette œuvre que je trouvais énigmatique, merci. Mais j'aimerais vous demander maintenant, j'imagine que oui, il y a l'effet des œuvres sur le spectateur, la spectatrice, mais qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte de réaliser ces œuvres? Je pense que ça semble vous procurer à vous aussi tout un bien-être.
Ben oui, moi je vois la création comme étant, en fait, premièrement, là, je crois que chaque humain, on est des créateurs, que ça soit juste le fait de prendre des décisions conscientes dans notre vie. On crée notre propre chemin, notre vie devient une œuvre d'art. Et le fait, plus qu'on prend des décisions, je crois, plus proche qu'on est de nous-mêmes. En tant qu'artiste, on a la chance de créer des œuvres d'art, donc on crée quelque chose de qui vient de l'imaginaire, qui vient d'un monde invisible et qui permet de cristalliser, de solidifier certaines choses qu'on a besoin d'assimiler. Donc, je vois dans beaucoup de mes amis qui sont artistes émergents aussi, qui créent des œuvres, qui parlent souvent de certains traumas qu'ils ont vécu étant jeunes. Fait qu'inconsciemment, on se purifie au travers de nos œuvres. Puis plus notre carrière avance, je crois qu'on prend conscience de ça, puis qu'on est activement en train d'apprendre puis de cristalliser de l'information au travers de nos œuvres pour l'assimiler mieux.
Donc, l'œuvre, l'art et le cheminement personnel sont indissociables finalement. Alors, vos œuvres sont le reflet de vous-même et votre cheminement.
Ouais, tout à fait. Puis je crois que c'est comme je dis, chaque humain, les décisions qu'ils prennent, c'est un reflet d'eux-mêmes aussi. C'est la même chose pour moi.
Je vais repartir avec bien des réflexions après cette rencontre. Peut-être en terminant, Alex Coman, nous mentionner quels sont vos projets à venir. Vous avez donc une nouvelle série qui s'en vient. Est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres expositions? Vraiment, on peut dire que vous exposez beaucoup actuellement.
Ouais, ben en fait, avec Archive Contemporary, c'était, je dirais, ma dernière qui était acidulée. Pour la suite, je compte essayer d'intégrer le marché torontois et new-yorkais.
Quelle bonne nouvelle, hein?
Ouais.
Est-ce qu'il faut percer l'international?
Exact. Ouais. Donc, en avril, si le climat social me le permet, j'ai déjà prévu d'aller travailler avec un artiste à New York pour apprendre des nouvelles techniques de sculpture pour un projet que j'ai déjà imaginé.
Alors, oui, c'était tout à fait la fin de l'entrevue. C'est tout pour cette édition de votre magazine radio. C'est tout, hein. Prenez soin de vous, ménagez-vous dans les circonstances actuelles d'ici la semaine prochaine, alors que on fera un retour en équipe sur les films arts visuels faisant partie de la programmation du FIFA. Et demeurez à l'antenne de Radio Centre-Ville à 16h30 dans le cadre de l'émission Montréal Pleuillère, le retour à l'art qui sera question d'art visuel. Portez-vous bien.
Du consommable que des organismes comme le CGE existent.
Depuis 1983, le Centre Génération Emploi, reconnu par l'Assemblée nationale, peut vous accompagner et vous former pour la vie en matière de recherche et d'orientation à l'emploi. Joignez-vous à plus de 5000 personnes qui ont effectué des transitions réussies vers l'emploi en bénéficiant de notre expertise. Vos programmes sont offerts en français et en anglais.
Inscrivez-vous à une formation gratuite pour vous propulser sur le navire de l'emploi à grande voile. Prochaine formation débute les 23 et 30 mars 2020. Venez nous voir en personne au 7000 Avenue du Parc, bureau 414 à Montréal, près du Métroparc sur la ligne bleue, ou appelez-nous au 514-948-0000 pour plus de renseignements.
Vous écoutez Radio Centre-Ville 102.3, la radio de la diversité. Ici Dimitri Papadopoulos de l'équipe Hellénique. Je vous invite à écouter les émissions en grec les lundis, mercredis et jeudis à 20h.
Aujourd'hui, il y a du sel dans tout. Dans les bols poké, il y a du sel. Dans les sandwichs, il y a du sel. Dans les soupes, encore du sel. Dans le pâté chinois, eh oui, du sel. Puis en plus, quand tu manges, tu regardes ton sel. Pourtant, tout le monde sait que trop de sel, c'est pas bon pour la santé. Un petit conseil, laisse faire ton sel quand tu manges. Prends le temps de manger, c'est bon pour ta santé. Un message du gouvernement du Québec.
Vous êtes infirmier et infirmière auxiliaire. Réposez aux bénéficiaires. Vous aimeriez faire la différence dans votre quotidien. L'agence de placement et centre de formation pour préposés aux bénéficiaires CMB. Une équipe formidable, dynamique, très engagée auprès de diverses résidences. Vous offre l'opportunité de vous distinguer auprès de nos aînés en leur offrant vos services. Si vous aimez travailler en contact avec le public et pensez avoir les qualités requises, joignez-vous à nous. Nos cours débutent à partir du mois d'octobre 2019. Assurance collective, dentiste, médicaments, soins de la vue, chambre privée lors d'une hospitalisation. Notre expertise en recrutement font de nous l'employeur de choix et de qualité. Prenez votre téléphone et composez le 514-543-7033, poste 0. Avec les entreprises CMB incorporées, l'argent reste dans vos poches.
Lorsqu'une transaction immobilière doit être faite, bien faite et parfaite, Prédy Donicin, c'est le nom qu'il faut avoir en tête. Sa connaissance du terrain, sa maîtrise des dossiers, son expérience, sa compétence, ses stratégies d'accompagnement des clients font de lui une référence naturelle pour l'immobilier. Prédy Donicin, courtier immobilier agréé de Remax Excellence, est aux aguets constamment en vue de dénicher les meilleures aubaines pour le bonheur de ses clients qui veulent s'acheter une maison. Vous voulez vous acheter une nouvelle maison et mettre en vente celle que vous possédez? Prédy Donicin, Remax Excellence, le choix crédible qui s'impose, les noms qui font la différence, une formule imbattable et toujours gagnante. 514 984 14 74.